Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes, chapitre 9. À la page 9, c'est-à-dire à la page 714, si vous avez une Bible comme celle-ci, que vous pouvez prendre là si vous n'avez pas aimé avec votre Bible ce matin. Mais avant de comprendre la portée de ce passage, il nous faut déjà nous vous intéresser au contexte dans lequel ce texte a été écrit. Et nous allons en particulier nous intéresser à un personnage qui s'appelle Saul. Et nous allons nous intéresser à lui, puisque Luc lui-même, celui qui a été divinement inspiré par le Saint-Esprit pour écrire le livre des Actes, Luc lui-même a estimé que nous devons savoir un certain nombre de choses sur lui. Alors, nous sommes quelques années après la mort et la résurrection de Jésus, et l'Église est encore toute jeune, petite et concentrée à Jérusalem, la ville de Jérusalem. Mais la parole de Dieu se propage de plus en plus, nous dit le livre des Actes, et l'Église se met alors à grandir. Et cette croissance de l'Église va susciter une opposition de la part des autorités religieuses juives. Étienne, un diacre de l'église de Jérusalem, est alors arrêté et condamné à mort uniquement en raison de sa foi en Jésus. Alors, la Bible garde sous silence l'identité de ses meurtriers, mais en revanche, Dieu a jugé bon de porter à notre connaissance le nom d'un de leurs complices. Et c'est ici que Saul, un individu peu recommandable, fait son entrée dans le texte biblique. Acte 7, verset 58, les témoins avaient déposé leurs vêtements pour être plus à l'aise, pour pouvoir lapider Étienne. Ils se mettent à l'aise, ils déposent leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Saul était donc le témoin du meurtre, mais pas seulement. Plus loin, il nous est dit que Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Et ensuite, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et que fait Saul pendant ce temps-là? Pendant ce temps de persécution, eh bien, il est pleinement actif. Acte 8, 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et en les faisant jeter en prison. Pendant que Saul persécute les chrétiens qui sont restés à Jérusalem, dans les chrétiens, ceux qui ont fui, eux, ils se mettent à annoncer l'évangile là où ils se trouvent. Et l'église se met alors à grandir, pas simplement en nombre, mais aussi géographiquement. C'est ce que l'on voit dans le chapitre 8 du livre des Actes. Mais cela ne plaît pas du tout à ce criminel de Saul. Au début du chapitre 9, il y a écrit ceci: quant à Saul, pendant que l'église grandit, quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qui trouveraient, hommes ou femmes, pas de pitié. Poursuivre les chrétiens dans la seule région de Jérusalem ne suffit plus à Saul. Alors, est-ce que c'est parce que les chrétiens ont presque tous disparu, ou est-ce qu'ils sont devenus trop prudents et qu'ils se cachent? Quoi qu'il en soit, Saul en veut plus. Ce qu'il veut, c'est la mort de tous les chrétiens. Et alors, il décide, de sa propre initiative, de les pourchasser dans la grande ville de Damas. Ah, il y a là-bas une grande ville, et les chrétiens ont certainement dû fuir là-bas. Et pour cela, il doit demander une autorisation. Une autorisation qui lui permettra, en toute, entre guillemets, légalité, de pourchasser les chrétiens, et ainsi de les contraindre par la force à revenir à Jérusalem afin qu'ils se se fasse juger, condamner. Et Paul obtient cette autorisation de persécuter l'Église. Et il part pour Damas. Et verset 3-5, nous est parlé, nous est dit ceci: comme il venait en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: moi, je suis Jésus que tu persécutes. Et suite à cet événement extraordinaire, suite à cette apparition de Jésus, Saul se convertit au Seigneur. Et il se met alors à évangéliser. Acte 9, 19 à 21 dit ceci: il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient: n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Il n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? La conversion de Saul et son annonce de l'Évangile ne plaisent pas aux autorités juives qui sont à Damas. Et alors, elles décident de faire mourir Saul, qui devint maintenant à son tour la proie des persécuteurs. Mais avec l'aide des disciples, dans des circonstances assez rocambolesques, hein, je vous conseille de lire l'ensemble du chapitre 9, il finit par sortir de cette ville de Damas. Et dans un autre livre, le livre de Galates, qui celui-ci a été écrit par Paul, nous apporte quelques précisions qui ne se trouvent pas dans le livre des Actes, sur ces circonstances. Et entre autres, Paul nous dit que, après avoir fui Damas, Paul est allé tout d'abord se réfugier quelque temps en Arabie. Ensuite, il va remonter à Damas pour un temps très court, pour finalement décider de se rendre à Jérusalem. Et entre sa conversion et son arrivée à Jérusalem, et donc le passage que nous allons lire maintenant, il s'est écoulé 3 ans. Et notre passage, celui qui va faire l'objet de notre méditation, commence ici. Je vous le... Voilà, il est affiché. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et le raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance devant le Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Saul arrive à Jérusalem dans un but précis: trouver des disciples et se joindre à eux. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples. Mais malheureusement, aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme il l'avait espéré. Car Saul arrive, suivi par son passé ou précédé par sa réputation, ce qui revient au même, et à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il était, ceux qui le rencontrent, les disciples qu'il rencontre, ne croient pas qu'il soit réellement chrétien. Quelle déception cela a dû être pour Saul, parce que malgré sa conversion, malgré son engagement pour Christ, qui a déjà failli lui coûter la vie, hein, et lui fuir précipitamment, Saul essaie de se joindre aux disciples, mais il n'y parvient pas. En effet, tous avaient peur de lui, car il ne croyait pas qu'il était un disciple. Saul fait peur aux disciples. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il être devenu chrétien? Peut-être un déjà ce qu'il a fait. Peut-être que Paul, que Saul en est sincère, mais comment en être sûr? Qui oserait prendre un tel risque? Eh bien, parmi les disciples qui se trouvent à Jérusalem, il y a quelqu'un qui va prendre ce risque, quelqu'un qui va dépasser sa peur, quelqu'un qui va faire confiance. Cet homme, c'est Barnabas. Alors, Barnabas, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom, en fait, c'est Joseph. Mais les apôtres lui ont donné le surnom de Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. On trouve cela dans Actes 4, 36. Probablement que par ses paroles, mais aussi par son attitude, par ses actes, Barnabas est un homme qui sait encourager les autres dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est justement ce qu'il va faire avec Saul. Les autres, eux, ne savaient pas que Saul était un disciple. Barnabas, lui, le grand, et il accueille Saul personnellement, plus encore, il l'introduit au cœur même de l'Église. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul a rejoint les apôtres. Et Galates, toujours Galates, chapitre 1, nous précise qu'il s'agissait en fait de l'apôtre Pierre et de Jacques, le frère du Seigneur, celui qui est responsable de la famille. Et que font les apôtres avec ce nouveau venu? Ils le prennent avec eux. Et c'est en leur compagnie que Saul annonce l'Évangile. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Mais à nouveau, rapidement, l'annonce de l'Évangile par Saul va lui être désobéie de la part de ses anciens amis. Le texte biblique, donc dans ma traduction, dit helléniste. En fait, les hellénistes, c'était des juifs qui étaient de culture grecque. Pas des juifs qui étaient nés ou qui avaient grandi à Jérusalem, donc, mais des juifs qui devaient plutôt venir d'une province. Or, il s'avère que Saul avait lui-même été formé par un grand maître, un grand rabbin, qui avait une grande connaissance de la culture grecque. Et donc, c'est tout naturellement vers lequel il se tourne. Mais en fait, cette annonce de l'Évangile va attirer de la part de ses anciens amis, hein, non pas de la sympathie, mais la haine. Et moins de 15 jours après son arrivée, toujours selon Galates 1, les hellénistes, les personnes qu'il rencontre et à qui il annonce l'Évangile, cherchent à nouveau à le faire mourir. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Ça, c'est un bon moyen pour faire taire quelqu'un. Et Saul est particulièrement bien placé pour comprendre, pour connaître l'efficacité de ce moyen, puisque lui-même l'a utilisé. Et Saul est là en danger, mais heureusement, Saul peut maintenant compter sur l'aide des disciples, qui vont organiser sa fuite et ainsi sauver sa vie. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Alors, dans un premier temps, les disciples conduisent Saul à la ville de Césarée. Césarée, c'est une ville qui est environ située à 100 km de Jérusalem. Et en fait, cette ville, c'est la préfecture militaire de la région. C'est là où les Romains concentrent l'essentiel de leurs forces. C'est là où il y a le gouverneur. Et là, dans cette ville très militarisée, il sera certainement plus difficile à ceux qui veulent supprimer Saul de le faire. Mais surtout, la ville de Césarée est un port. C'est le plus grand port de la région. Et à partir de là, Saul peut partir pour la ville de Tarse. Tarse, c'est sa ville d'origine. Une ville qui est située à environ 800 km au nord de Jérusalem. Grâce à l'action des disciples, Saul a pu échapper à ses ennemis. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre à nous? En quoi ce qui a été écrit il y a près de 2000 ans est-il pertinent pour nous aujourd'hui et dans notre situation? Il me semble que ce texte met en lumière que la mission de l'Église locale, c'est d'accueillir ceux qui appartiennent au Seigneur. Et ce texte souligne que le véritable accueil implique quatre choses. Quatre choses valables pour toutes les églises et à toutes les époques. C'est pour cela que j'ai intitulé ma prédication « Accueillons ceux que le Seigneur envoie dans notre église ». Alors, vous remarquerez que j'ai écrit « Église » avec un « E » majuscule. C'est une convention généralement utilisée lorsque l'on veut désigner par cela non pas un bâtiment, mais l'église du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui font partie de son corps. Et nous-mêmes, nous faisons partie d'une église locale, mais en fait, nous devons rappeler une chose, il ne s'agit pas de notre église, mais de son église, dont les croyants ne sont qu'une petite représentation. Comment accueillir ceux qui appartiennent au Seigneur et qui ont besoin de rejoindre une communauté dans laquelle ils pourront grandir, dans laquelle ils pourront servir le Seigneur? Alors depuis le début de l'année, ça a commencé au week-end à Saint-Avent, nous avons vu que le Seigneur poursuit un plan qu'il agit puissamment dans ce monde pour que son plan se réalise. Et notre rôle en tant qu'Église, en tant qu'individu également, c'est de préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire c'est de nous inscrire dans le cadre de sa volonté, aller dans le sens de ce que le Seigneur veut. Et nous avons vu que ce que le Seigneur attend de nous, c'est de vivre en disciple de Christ, mais c'est également de faire des disciples. Pour cela, nous avons vu qu'il nous faut être personnellement fondés sur la parole de Dieu et qu'il nous faut également annoncer l'Évangile. Et si par exemple, l'année prochaine, nous lançons dans les parcours Alpha, c'est une question qu'on se pose, et que le Seigneur utilise cela, ou bien d'autres moyens, pour conduire jusqu'à nous de nouveaux chrétiens, comment allons-nous accueillir ceux que le Seigneur va envoyer dans notre Église parmi nous? Et le texte que nous avons lu ce matin met en lumière quatre choses. Et comme pour nous aider à nous en souvenir, elles commencent toutes par la lettre A. Comme Saul, pour être accueillis, nous devons déjà réaliser qu'il nous faut nous approcher d'autres chrétiens. Comme Barnabas, accueillons ceux que le Seigneur envoie à notre rencontre. Comme ont fait les apôtres, accompagnons les nouveaux venus dans leur marche avec Dieu et dans leur service pour Christ. Et comme les disciples l'ont fait, aidons ceux qui ont besoin de nous. Tout d'abord, l'accent est mis sur la responsabilité de celui qui désire être accueilli. Approchons-nous. Parce que pour pouvoir être accueilli, quelque part, nous devons être conscients qu'il nous faut déjà nous approcher. Comment pourrions-nous être accueillis si nous n'allons pas au-devant des autres? Et parfois, par notre attitude personnelle, nous pouvons tenir les autres à distance. Et quand quelqu'un veut maintenir une certaine distance, qu'est-ce qu'on fait? En principe, on respecte cette distance. Si nous avons des visiteurs qui n'ont pas du tout l'air de vouloir engager la conversation, si nous avons des visiteurs qui, tout de suite après, ouvrent la porte, il y a une dame qui est partie, loup ne va pas plaquer, pour dire, restez là, on va vous accueillir. Non, bien sûr que non. Nous respectons cela. nous ne nous sentons pas de nous-mêmes, avec qui. Soyons conscients d'une chose, c'est que quand on vient dans une église, les gens qui sont dans cette église ne sont pas tous des gens parfaits. Je pense même pouvoir affirmer, j'espère pas trop vous décevoir, mais que l'église est 100% composée de gens imparfaits. Je ne me souviens plus quelqu'un disait un jour, si un jour je découvre une église parfaite, je n'irai pas. Parce qu'à partir du jour où j'y mettrai les pieds, elle ne le sera plus. Nous sommes tous des gens imparfaits. Ça veut dire que, des fois, dans notre accueil, nous pouvons rater le coche. Nous devons être conscients que parfois nous aimerions aussi être accueillis par les autres, mais que eux-mêmes ont parfois certaines difficultés, certaines peurs aussi. Parce que dans le texte que nous avons lu, en fait, ce qui ressort, si les disciples n'ont pas accueilli Saul, en fait, ce n'est pas à cause de ce qu'il avait fait avant. Parce que par la suite, ils ont accueilli Saul en sachant qu'ils sont dans ce qu'il a. En fait, ils n'ont pas accueilli parce qu'ils avaient peur de lui. Et parfois, les autres nous font peur. Et cela peut nous gêner dans l'accueil des autres. Parfois, nous approchons quelqu'un et nous pouvons lui faire peur. À la manière dont nous tenons, vous savez, des fois, on arrive, on a une posture, à la manière dont on est habillé, je ne sais rien. Peut-être qu'on rappelle à la personne que l'on rencontre, je ne sais pas, son voisin avec lequel il s'est pas. Et peut-être aussi, ça m'est arrivé une fois dans une église, hein, on découvre quelqu'un, et à la fin, après avoir, je me suis dit, bon, c'est pas mal d'aller dans cette église.
Et là, nous rendons compte que l'accueil
Ce n'est pas à cause des activités de l'Église. Ce n'est pas à cause de la ligne doctrinale de l'Église. C'est à cause de l'absence d'accueil qu'ils ont eu. L'accueil est très important. Ça commence par un sourire. Ça contribue aussi par laisser des places. Nous, ce matin, on n'est pas très nombreux. Des fois, on laisse nos visiteurs les places sur lesquelles nous, on ne pouvait pas les s'asseoir, les places qui sont devant. Mais surtout, l'accueil passe par autre chose, par la rencontre. Accueillir, c'est aller à la rencontre de. C'est pas simplement tolérer l'autre, c'est sa rencontre. Et c'est le recevoir. C'est-à-dire, accueillir, j'ai accueilli, ce n'est pas simplement dire j'ai supporté. C'est j'ai reçu. Recevons l'autre sans nous arrêter. Sans vous laisser arrêter par les apparences, ni par son passé. Et je trouve intéressant que Dieu, dans sa sagesse, dans le livre des Actes, a mis l'accent sur Saul, pour être très vécu, garder sa souciance. Mais il a bien fait en sorte de nous montrer que Saul n'était pas un individu recommandable. Eh bien, il peut arriver que des gens franchissent cette porte, et à nos yeux, ce ne sont pas des gens recommandables. Mais notre particularité, c'est si nous sommes conscients que cette Église n'est pas notre Église, mais l'Église du Seigneur, et que nous devons accueillir non pas ceux que nous avons choisis, mais tous ceux que le Seigneur a choisis. Ça, c'est notre partir. L'accueil passe aussi par dépasser nos peurs. Des fois, hein, je suis sûr que ça vous arrive aussi, hein, il y a des gens, des fois, qui peuvent vous faire un peu peur. Il y a des gens qui ne sont pas faciles, hein. Ça veut déjà arriver, ça veut dire, vous engagez la conversation, on vous dit, non, oh celui-là, il n'y apprendra pas deux fois. Ça arrive. Mais si nous, qui sommes avec le Seigneur, nous limitons ça, si nous nous laissons arrêter par les vraies choses, alors qui allons-nous accueillir vraiment? Uniquement nos amis, des gens qui nous ressemblent, qui nous font du bien. L'accueil dépasse cela. Et parfois, des gens ont été touchés par le Seigneur et ils arrivent encore bien à dégrossir. Nous avons cité nos propres peurs, nos propres codes. Si demain nous avons un punk, parce que c'est plus trop la mode des punks. Si demain nous avons un transsexuel qui rentre en église, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui n'est pas là pour faire de la provocation. Quelqu'un qui vient là parce que son cœur a été touché par le Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est un simple visiteur, quelqu'un qui est curé d'église, nous devons déjà l'accueillir. Mais si en plus c'est quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, puisque le Seigneur l'a reçu, il est de notre responsabilité de l'accueillir. Ce n'est pas nous qui choisissons ce que le Seigneur a choisi. Nous ne sommes là que pour accepter les choix que le Seigneur a fait et les reconnaître. Et parfois, nous avons peur de l'autre. Nous n'avons pas trop ce qu'il faudrait dire. Heureusement que Barnabas, lui, a dépassé sa peur. Accueillir, c'est également recevoir l'autre, non pas avec l'idée qu'on s'en fait, mais avec ce qu'il nous dit de lui. Et si Barnabas a pu raconter aux apôtres ce que le Seigneur a fait dans la vie de Saul, c'est pas parce que Barnabas était sur place, c'est parce qu'il a entendu le témoignage de Saul. Ça veut dire que l'accueil passe par écouter l'autre, recevoir ce qu'il nous dit et faire confiance. On ne peut pas écrire quelqu'un si il faut. Nous devons doublement faire confiance à l'autre, faire confiance à l'autre, mais aussi faire confiance au Seigneur. Si le Seigneur a conduit quelqu'un ici, alors faisons confiance au Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devrions avoir peur? Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur a choisi cette personne, pourquoi nous devrions avoir peur? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Allons à la rencontre des autres. quelle est la moindre des choses? Accueillir ceux qui ont répondu à cette invitation. On ne doit donc pas attendre que ce soit la personne qui arrive, qui vienne vers nous, mais nous devons aller au-devant d'elle. Nous devons aller à la rencontre de tous les autres. Et ça, c'est pas forcément facile, parce que dans l'église, quand on est là depuis un petit moment, on a tous des amis. Et puis, on s'arrête, on discute. Mais parfois, eh bien, on se contente de ça. Et il y a des nouvelles personnes qui, elles, ne font pas encore partie d'une sphère d'amitié. Et elles sont là. Elles ne sont pas accueillies. Allons aussi vers des personnes avec lesquelles nous n'avons pas encore discuté. Est-ce qu'il y a ici des gens, vous avez souvenir de gens qui viennent ici depuis plusieurs fois, avec lesquels vous n'avez pas encore discuté? Et bien, si oui, c'est le moment de le faire. Allez dans le compte de cette personne. Intéressons-nous à eux. Ne discutons pas seulement avec nos amis. Accueillons. Mais le véritable accueil, ça ne se limite pas non plus simplement à ça. Accueillir commence par rencontrer l'autre, lui accorder notre confiance. Mais le véritable accueil va plus loin. L'accueil que Dieu veut voir dans l'Église nous demande d'aller plus loin que cela. Et entre autres, d'accompagner les autres dans leur marche avec Dieu et dans le service au Christ. Nous devons être conscients d'une chose, c'est que la mission de faire des disciples ne repose pas sur quelques-uns, mais sur chacun. Chaque disciple a pour mission de faire d'autres disciples. Ça veut dire que l'accompagnement de l'Église n'est pas l'affaire simplement du pasteur ou de quelques-uns, mais de chacun. Et tous, nous pouvons accompagner quelqu'un. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose de concret dans votre vie? Est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur le Seigneur qui pourraient être utiles à quelqu'un? Est-ce que vous avez une certaine expérience dans la marche avec Dieu? Si oui, alors vous êtes parfaitement qualifié pour accompagner un jeune chrétien. Prenons la décision d'accompagner au moins une personne. C'est une nouvelle année qui s'offre à nous. Essayons d'accompagner au moins une personne. Et on peut l'accompagner de bien des manières. Les apôtres, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vus arriver ce Saul. Saul, visiblement, était quelqu'un qui avait des dons d'évangéliste. Ils l'ont pris avec eux et sont allés avec lui. Nous pouvons permettre, enfin, accompagner les autres dans notre propre service. Nous pouvons lire la Bible avec elle, nous pouvons prier avec elle. En tant qu'Église aussi, nous devons veiller à permettre à cette personne, si elle a des dons, si elle a un appel particulier, nous pouvons permettre de développer et d'exercer ses dons. Et je pense qu'il y a aussi un moyen avec lequel nous pouvons vraiment accompagner une personne. C'est laisser en train de se mettre en place ce qu'on appelle les groupes de croissance. Le groupe de croissance, c'est un petit groupe, trois personnes. L'intérêt d'un groupe de croissance, c'est que n'importe qui dans l'Église, à partir du moment où il a cet amour au Seigneur et où il est prêt à lire sa Bible et à se laisser interpeller par le Seigneur, alors n'importe qui est qualifié pour partager cela avec un autre, pour prier avec lui. Et ça, c'est un véritable accompagnement. De pouvoir accompagner l'autre dans son cheminement avec le Seigneur. De prier pour ses difficultés. Nous pouvons de multiples manières accompagner l'autre. Parce que nous ne sommes pas ici simplement dans l'Église en tant que consommateurs. Parce que vous savez que vous êtes acteur de l'Église, pierre vivante. C'est comme ça que la Bible nous appelle. Des pierres, pas simplement des pierres posées. Le Seigneur vous connaît, vous a choisi, on a entendu ça ce matin. Ça veut dire qu'il vous a choisi tel que vous étiez et qu'avec ce que vous êtes, il pense que vous pouvez contribuer à la marche de son Église, à sa gloire, à ce qu'il resplendisse dans la vie d'autres personnes.
Dernier point. Je fais partie de la chaîne. C'est la cœur. Aidons les autres. C'est ce qu'ont fait les disciples. Saul est arrivé. Au début, il était entre guillemets productif. Tout de suite, il s'est mis au travail. Rapidement, il a eu des soucis. Eh bien, ils l'ont aidé. Ils se sont personnellement impliqués pour apporter leur aide à Saul. Ça signifie que, pour cela, on doit s'intéresser aux besoins des autres. D'ailleurs, nous, de notre côté, si nous avons nos propres besoins, nos propres besoins, osons les exprimer. Nous sommes un corps vivant, agissant. Nous pouvons, ensemble, porter le fardeau, nous aider. Je suis certain que chacun de nous peut attribuer, enfin, peut apporter une certaine contribution à l'aide d'autres. Si je crois en ce que la Bible nous dit que nous avons chacun des dons particuliers, il nous a été confié un certain nombre de richesses, de biens, pas que des richesses matérielles. Ça veut dire que nous avons les moyens de pouvoir aider les personnes dans certaines circonstances. Que nous soyons. Accueillons ceux que le Seigneur envoie dans notre Église. C'est notre devoir, mais c'est aussi notre intérêt personnel et celui de l'Église tout entière. Qui sait ce que Dieu a prévu de faire au travers de la personne que vous allez accueillir, de cette personne à qui vous allez dire bonjour, de cette personne que vous allez accompagner en Église, de cette personne que vous allez aider à grandir, de cette personne à qui vous allez apporter une aide concrète. Et ce Saul dont nous avons parlé ce matin, cet homme que certains disciples ne voulaient pas reconnaître comme chrétien, mais pas venir dans l'Église, parce qu'il doutait qu'il était réellement disciple, eh bien ce Saul est devenu l'apôtre Paul. Le missionnaire, l'évangéliste, le théologien, le fondateur d'Église. Qui sait ce qui serait devenu si les chrétiens de Jérusalem n'avaient pas accueilli, s'il n'y avait pas eu au départ un Barnabas? Eh bien, par votre accueil dans l'Église, par votre soutien, par votre aide, vous pouvez contribuer, sans le savoir, à l'avance, à la réalisation du grand projet de Dieu pour son Église. Comme le Seigneur nous a